des personnes ni acceptation du présent. Josaphat était le roi de Juda. C'était un roi pieux qui avait la crainte de l'Éternel. L'une des premières actions de Josaphat arrivé sur le trône, il a fait disparaître dans tout le pays les idoles. Et il ramena le peuple à l'Éternel. Il a parcouru tout le pays et il a établi des juges dans chaque ville pour prononcer les jugements. Mais en les installant, il leur dit, c'est Josaphat qui parle aux juges. Et c'est ces deux versets qui m'intéressent ce matin. Prenez garde à ce que vous ferez. Et ce n'est pas pour les hommes que vous prononcerez les jugements. C'est pour l'Éternel qui sera près de vous quand vous les prononcerez. Et le verset 7, le verset qui va me servir de toile de fond pour la méditation de ce matin. Maintenant que la crainte de l'Éternel soit sur vous, veillez sur vos actes, car il n'y a chez l'Éternel, notre Dieu, ni iniquité, ni égard pour l'apparence de personne, ni acceptation de présent. Il insiste, avoir la crainte de l'Éternel, chers frères et sœurs, en tant que serviteurs et servantes de Dieu, ça nous permet de nous rapprocher de lui. Ça nous permet aussi d'être en communion avec lui et d'être toujours dans une attitude de soumission et une attitude de reconnaissance de sa volonté. Avoir la crainte de l'Éternel nous permet de comprendre aussi ce qui est désagréable à ses yeux, à savoir le péché, parce que notre Dieu, le Seigneur, ne tolère pas le péché. Frères et sœurs, nous comprenons ce matin que la crainte de l'Éternel n'a rien à voir avec la crainte des hommes, qui est synonyme de peur. Lorsque la crainte des hommes, à savoir la peur, envahit les esprits, ça peut conduire à l'instabilité, le malaise, et même provoquer des révolutions. Mais la crainte de Dieu, ça produit des bienfaits pour notre vie chrétienne. Et ce matin, dans ma méditation, je souhaite mettre en exergue trois bienfaits découlant de la crainte de Dieu. Le premier, c'est la crainte de Dieu conduit à mener une vie de prière. Le deuxième, la crainte de Dieu conduit à vivre et à marcher selon l'Esprit. Le troisième, la crainte de Dieu fait disparaître la peur de la souffrance. Oui, la crainte de Dieu nous conduit à mener une vie de prière parce que nous aimons le Seigneur. Être chrétien, c'est reconnaître notre malheur, notre détresse, notre incapacité à nous sauver nous-mêmes. Être chrétien, c'est reconnaître et nous habituer à la puissance du Seigneur. Considérer notre état, rien ne peut plus nous encourager à fonder notre assurance en Dieu. Plus nous nous courbons devant notre Seigneur, plus son esprit va œuvrer et nous convaincre de tout ce qui est mal. Plus son esprit va œuvrer et nous convaincre de nos péchés. Ne laissons, chers frères et sœurs, pas cette crainte nous éloigner de Dieu. Parce que la crainte de Dieu ne provoque pas la peur. En fait, ça nous rapproche de Dieu. Mais parfois, l'accusateur, à savoir Satan le diable, il utilise cette crainte. Il utilise la crainte de l'Éternel, la crainte de Dieu à des fins dévastatrices dans nos vies. Parfois, il utilise cette crainte pour nous accabler. Il utilise cette crainte pour nous accuser nous-mêmes. Parfois, il utilise cette crainte pour nous décourager. Et il utilise ce crainte pour nous éloigner de la présence de Dieu. Pour nous éloigner de la présence du Seigneur. Mais au contraire, cette crainte doit nous conduire à adorer Dieu, de préférence, et à le prier. Le psalmiste David écrit, « Mais moi, par ta grande miséricorde, je vais à ta maison, dans ta maison, et je me prosterne dans ton Saint-Temple avec crainte. » Parce que le psalmiste ici s'appuie sur la bonté et la fidélité de Dieu. Parce que Dieu est un Dieu infiniment bon. Et dans la présence de Dieu, nous comprenons aussi quelles sont nos souillures et nos péchés. Parce qu'il y a l'Esprit de Dieu qui agit en nous et qui nous parle. Et qui nous permet de voir notre état. Oui, je disais que la crainte de Dieu conduit à mener une vie de prière. Mais la prière, nous savons très bien que, étant la communication personnelle avec Dieu, la prière doit occuper une part importante dans la vie de chaque chrétien. Frères et sœurs, approchons-nous avec crainte et faisons à notre Dieu, à notre Seigneur, toutes sortes de prières. Premièrement, une prière de confession. Parce que nous savons, puisque nous sommes encore sur terre, nous vivons encore ici-bas, notre obéissance à Dieu n'est jamais parfaite. Et nous avons besoin continuellement de son pardon. Qui n'a pas péché? Nous sommes tous des pécheurs. La confession est nécessaire pour que Dieu nous pardonne. Et donc pour rétablir sa relation quotidienne avec nous. Et nous devons prier aussi avec une attitude d'humilité. C'est ce que j'appelle la prière d'humilité. C'est une attitude que nous devons avoir dans la prière. Ce que l'apôtre Jacques nous rappelle bien. La crainte de l'Éternel doit aussi se refléter dans nos prières où nous nous humilions devant lui. Et la prière aussi, c'est s'attendre à Dieu. Quand nous prions, nous attendons une réponse. David a souvent crié à Dieu pour être secouru dans sa détresse. Et il dit, il compte sur l'intervention divine dans sa vie. Et c'est David qui parle, qui dit, « J'espère à l'Éternel. Mon âme espère. Et j'attends sa promesse. Mon âme compte sur le Seigneur plus que les gardes ne comptent sur le matin. » Oui, que les gardes ne comptent sur le matin. Psaume 130, versets 5 et 6. Ce matin, chers frères et sœurs, faisons notre cette prière de David. Que cette prière soit celle du chrétien sincère, qui s'approche de Dieu avec crainte et qui est conscient de sa présence. Lui présente avec ferveur sa demande et attend ensuite calmement que Dieu lui donne l'assurance qu'il a été entendu. Oui, craindre Dieu, c'est le prier, en lui demandant de nous montrer nos souillures, nos péchés afin de les confesser. Oui, craindre Dieu, c'est lui demander de nous remplir de sa présence. Oui, craindre Dieu, c'est le prier avec humilité et lui demander son secours afin que nous puissions le glorifier en retour en toutes circonstances. Le deuxième bienfait de la crainte de Dieu, il nous conduit à vivre et à marcher selon l'Esprit. En Galates 5, verset 25, c'est l'apôtre Paul qui parle. L'apôtre Paul exhorte les chrétiens qui vivent par l'Esprit, à marcher aussi selon l'Esprit. Et le même apôtre, Paul, en Romains 6, versets 8 à 14, il dit, « Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons aussi que nous vivons avec lui. Sachant que Christ, ressuscité des morts, ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui, car il est mort. Et c'est pour le péché qu'il est mort, une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi, vous-même, regardez-vous comme mort au péché, et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. » Fin de citation. Certains pensent, malheureusement, que le Seigneur peut cohabiter avec le péché. Mais ces versets nous montrent tout le contraire. D'autres disent que puisque la grâce surabonde là où le péché règne, profitons-en pour faire ce qui bon nous sommes. Profitons-en pour vivre n'importe comment, parce qu'il y a la grâce. En effet, chers frères et sœurs, un tel raisonnement n'est jamais celui des fils et des filles de Dieu. Parce que nous savons très bien ce que la grâce a coûté à notre Seigneur. Ce que la grâce a coûté à notre Sauveur. L'humiliation, les coups de fouet, la mort. Et puisque nous savons tout cela, en un mot, nous craignons d'attrister notre Dieu. Nous craignons d'attrister notre Seigneur. Ce matin, notre mort avec Christ enlève au péché toute force et toute autorité sur nous. Je le répète. Ce matin, notre mort avec Christ enlève au péché toute force et toute autorité sur nous. Oui, parce que tout est accompli par Jésus-Christ. À la croix. Amen. Il a payé nos dettes. Tout est accompli par lui. Nous ne sommes plus esclaves du péché. Parce que nous vivons pour Christ et Christ vit en nous. Oui, notre Seigneur nous a transportés avec lui dans sa mort, où notre chair a été crucifiée. Et il nous a ressuscités aussi avec lui par sa résurrection. C'est pour ça, ce matin, si nous vivons, nous ne vivons plus pour nous-mêmes, mais nous vivons pour notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Amen. Nous vivons pour notre Dieu. Oui, chers frères et sœurs, si nous comprenons que notre chair a été crucifiée, eh bien, nous verrons les œuvres de la chair disparaître de notre vie par la foi et non par notre sainte volonté ou nos bonnes résolutions, mais dans l'œuvre accomplie à la croix par notre Seigneur et Sauveur. Vivons selon l'Esprit. Craignons Dieu et nous n'accomplirons pas les désirs de la chair. Le troisième bienfait de la crainte de Dieu, cette crainte fait disparaître la peur et la souffrance. Oui, je répète, la crainte de Dieu fait disparaître la peur et la souffrance. Pourquoi je dis ça? Parce que nous savons que nous ne sommes pas tout seuls. Le Seigneur, il est là. Il marche au milieu de nous. Il marche avec nous. Il prend soin de nous. Il surveille sur nous. Les conséquences de la vie spirituelle sont bienfaisantes et essentielles pour toute notre vie. Car quand nous l'avons, elle s'établit dans nos cœurs et elle fait disparaître la crainte charnelle. Elle fait disparaître la crainte des hommes, synonyme de peur. La crainte de Dieu aussi fait disparaître le doute et l'incertitude. Elle fait disparaître même la peur des mauvaises nouvelles. Quand nous avons la crainte de Dieu, nous avons l'assurance que Dieu est là. Ça me fait penser aux trois jeunes Hébreux dans la fournaise. Le roi leur demanda de s'agenouiller, de se prosterner au son de la trompette. Ils ont dit, oh, waouh, c'est impossible pour nous. Parce que nous, nous ne nous prosternons que devant l'Éternel, notre Dieu. Ils n'avaient pas peur de la mort. Ils n'avaient pas peur de la fournaise. Parce qu'ils savaient très bien que Dieu est là. On les a jetés dans la fournaise. Mais le roi un peu tourmenté, en regardant à l'intérieur, au lieu de trois personnes, le roi a vu combien? On a vu combien? Quatre. Et la quatrième ne ressemblait pas au fils des hommes. Dieu était là à l'intérieur avec eux. Daniel dans la fosse au lion, c'était pareil. Oui, chers frères et sœurs, quand nous avons la crainte de Dieu, le doute, l'incertitude, ça disparaît. Et la crainte de Dieu fait disparaître en nous la peur aussi des mauvaises nouvelles. Il y a un verset que nous trouvons dans Apocalypse chapitre 2, le verset 10. Verset 7 à 10, je vais les lire pour vous ces versets-là. C'est le Seigneur qui s'adresse à l'église de Smyrne. C'est le dernier livre de la Bible, Apocalypse, chapitre 2, verset 8 à 10. Apocalypse 2, verset 8 à 10. Je lis pour vous. C'est le Seigneur qui demande à l'apôtre Jean d'écrire cette lettre. Écris à l'ange de l'église de Smyrne. Voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais ta tribulation et ta pauvreté. Il est calomnié de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. C'est Christ qui parle dans la lettre. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés et que vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Oui, le Seigneur exhorte les chrétiens de Smyrne à ne pas craindre les souffrances à venir. C'est naturel, la chair craint toujours la persécution, la chair craint toujours la souffrance. Mais ce matin, le Seigneur demande à son Église. Il nous demande, à nous qui sommes ici présents ce matin, de ne pas avoir la crainte. Ce qui fait disparaître aussi cette peur de la souffrance, de la persécution. Cette crainte qui fait disparaître aussi la peur d'être maltraité, d'être rejeté. Combien de fois en tant que chrétiens nous souffrons du fait d'être rejetés?
parfois sans raison.
Mais nous ne nous rendons pas compte que c'est une grâce de Dieu aussi, hein, de supporter les mauvais traitements quand on n'a rien fait de mal, quand on souffre injustement. Nous devons nous rendre compte ce matin que nous sommes appelés à être traités, à être injustement traités. Nous sommes appelés aussi à souffrir la persécution. Nous sommes appelés aussi à souffrir du rejet. Parfois, les mêmes personnes qui nous encensent aujourd'hui, qui nous élèvent en dignité, ce sont ces mêmes personnes-là demain qui vont nous rejeter. Tout comme notre Seigneur et notre Sauveur. Qu'on le veuille ou non, chers frères et sœurs, nous y passons aussi à un moment donné ou à un autre de notre vie. Nous passons par là. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole. Car dans Luc 3, 23, verset 31, c'est Jésus-Christ qui parle. Il dit, si l'on fait ces choses au bois vert, à savoir Jésus-Christ, le Seigneur, qu'arrivera-t-il au bois sec, à savoir nous qui sommes des pécheurs? Chers frères et sœurs, quand cela nous arrive, au lieu de nous apitoyer sur notre sort, nous devons nous réjouir car nous avons été dignes de l'être. Dans ces moments difficiles, ou bien dans les moments difficiles que nous traversons, ou bien que nous aurons à vivre, que nous aurons à traverser, nous ne devons pas réagir comme ceux qui ne connaissent pas la parole. Nous devons les accepter parce que nous y sommes destinés. Et c'est cela, participer aux souffrances de Christ. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. C'est Christ qui parle. Oui, les chrétiens de l'église Smyrne, à qui cette lettre a été adressée, allaient souffrir. Certains allaient être mis en prison. D'autres allaient périr. Mais cette parole de réconfort sortant de la bouche du Seigneur, ne crains pas ce que tu vas souffrir. Fais disparaître toute peur. Parce que le Seigneur est notre soutien. Cette parole fait disparaître toute peur. Parce que notre Seigneur est notre... Parce que Dieu, le Seigneur est notre refuge. Car il est écrit dans Psaume 27, verset 1er, l'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? Que peuvent me faire des hommes? Et il est écrit quelque part, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Et plus loin, il est dit, quand Dieu approuve la voie de quelqu'un, il dispose favorablement sur le chemin de cette personne-là, même ses ennemis. Amen, 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 amen. Nous n'avons qu'une seule chose à faire ce matin, c'est d'avoir la crainte de Dieu. D'avoir la crainte de Dieu. Oui, c'est une nouvelle année ecclésiastique que nous abordons, peut-être avec beaucoup d'incertitude. Ce matin, il y avait une inondation au sous-sol, c'est ça? Si j'ai bien compris. Cette nouvelle année ecclésiastique que nous abordons avec beaucoup d'incertitude, parce que nous ne savons pas ce que l'avenir nous réserve. Nous nous demandons parfois si nos projets seront réalisés. Le projet de l'Église, le projet individuel aussi. Nous vacillons un peu de notre foi en nous demandant parfois, sommes-nous dans la volonté de Dieu? Mais j'aimerais vous dire ce matin, rassurez-vous. Rassurons-nous, parce que nous sommes fils et filles de Dieu. Nous sommes ses enfants. Le Seigneur nous aime tel que nous sommes, avec nos difficultés. Il nous aime avec nos chutes. Oui, avec nos chutes. Même avec notre caractère quelquefois charnel, le Seigneur nous aime. Il nous aime tel que nous sommes, même avec le péché qui nous colle à la peau. Il nous aime. Ne nous soucions pas de l'avenir en disant de quoi demain sera fait. Est-ce que nous atteindrons nos objectifs? La seule solution à tous ces doutes, ces incertitudes, c'est de vivre dans la crainte de Dieu. De ne pas essayer de faire les choses de par nous-mêmes. De rester à son écoute. De nous soumettre totalement à lui. Car le Seigneur, il est notre tout. Il est le soutien de notre vie. Et pour finir, j'aimerais vous quitter avec toujours une parole du psalmiste. David qui dit, marchons dans la crainte et l'humilité. Et faisons de nous cette prière du psalmiste. Seigneur, enseigne-moi tes voies. Je marcherai dans ta fidélité et dispose mon cœur à la crainte de ton nom. Que le Seigneur nous aide et qu'il nous bénisse tous.